Michel Denisot, un podcast Europe 1.
Icône, Joestar. Bonjour Joestar.
Bonjour.
Quelles sont les icônes qui font ce que vous êtes ?
Elles sont multiples. Il y en a en musique. Il y en a beaucoup issus de la télé. Il y a quelques écrivains, on va dire.
J'ai vu en préparant ce rendez-vous qu'Antonin Artaud.
Ouais, j'ai eu une période Artaud. Ouais, bah quand je traînais avec Florence Artaud, justement, c'est assez marrant.
Ah ouais.
Voilà, qui ne sont pas du tout de la même famille. Et entre autres, ouais. Enfin voilà, mais c'est très changeant. Hein. Aujourd'hui, en plus, comme je suis pas mal l'actu, c'est très changeant, quoi.
Et chez Artaud, qu'est-ce qui vous plaisait ? C'est ses délires, c'est.
Bah ouais, c'est le côté écorché. Ouais. J'ai aimé aussi sa période. Théâtre, je crois que c'est lui qui a inventé le théâtre radiophonique. J'en ai écouté quelques-uns, c'était assez.
Oui, il a influencé beaucoup le théâtre.
Voilà, le théâtre.
Mais beaucoup plus tard, en fait.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Après 68, aux États-Unis.
Voilà. Le mec était vraiment aussi un spectateur de son époque, quoi. Il a quand même traîné avec Van Gogh, la Calas, entre autres. Voilà, tout en étant ce qu'il était. Il a goûté à la geôle française. Voilà, quoi.
Vous vous retrouvez un peu en lui.
Ouais, enfin c'est surtout que c'était aussi une époque où je voyageais beaucoup et donc du coup il y a pas mal de choses qu'il a écrit, même des correspondances qui ont été éditées de lui qu'on peut ouvrir n'importe où sans forcément être dans la chronologie de ce que ça raconte et rentrer dedans, quoi. Mais il est assez balèze pour ça, quoi. Voilà, c'est-à-dire que moi c'était le côté écorché surtout qui me plaisait, quoi.
Ouais. Et les écrivains qui vous influencent ?
Ça pourrait être Romain Gary, ça pourrait être... Il y en a pas mal, mais ça fait un moment, je vous avoue qu'en ce moment, je lis plus du tout depuis un moment, je lis des scénars, je participe à des trucs d'écriture, tout ça, donc je suis un peu dans autre chose en ce moment.
Quand vous faites ce que vous faites, il y a des influences qui arrivent
Mais je suis de cette génération, moi je suis ce qu'on appelle un TV addict, donc la télé m'influence beaucoup, je suis du genre à me révolter à 20h quand je suis en train de manger mon jambon et ma purée devant la télé, tac. Donc de temps en temps je réagis pas mal sur papier par rapport à ce que je vois, et donc c'est ce qui fait que je continue à écrire. Peut-être pas des textes encore là, dernièrement ça fait un moment que j'ai pas écrit de texte réellement, mais continuer à écrire des réflexions, des choses comme ça. Ouais.
Et dans les hommes qui ont fait l'histoire, on peut parler de Nelson Mandela, de gens comme ça, ou Obama, ou en France, je sais pas qui, Général de Gaulle, sont des icônes pour vous ?
Alors, est-ce que De Gaulle est une icône ? Oui, De Gaulle peut être une icône. Enfin, bon, un peu moins quand on pense à la guerre d'Algérie, mais enfin voilà. Oui, ça peut être une icône. Peut-être pas des miennes, mais au moins, oui, il a contribué quand même à la société comme on la connaît aujourd'hui, quoi. Donc oui, on pourrait dire oui.
Mais dans vos icônes à vous, alors ?
Dans mes icônes à moi ? Par exemple, dernièrement, j'ai découvert quelqu'un, qui avait une histoire assez sordide quand même, c'est Marnie, c'était la personne qui a été incarcérée le plus longtemps en France, il a fait 40, plus de 40 piges de placard et tout, et on a cet homme qui est aussi une icône, Sarkozy, ce salopard, qui a refusé de le faire libérer alors que le mec était à moitié aveugle, pouvait à peine marcher. Par exemple, voilà. Et donc, l'histoire de Marnie, j'y ai vu une icône, par exemple. Ouais.
Et dans la musique, hein, quand vous avez démarré avec NTM, c'était quoi ?
Alors là, c'est trop vaste. Ouais. Non, mais je veux dire, ça commence par des James Brown, des Bob Marley, des Prince, même des Eddie Mitchell. Enfin, c'est assez vaste, quoi.
Mais ça se manifeste
et après, comment ? Et après, ouais. Bien sûr, il y a eu toute cette période rap, Public Enemy, entre autres. Il y en a des paquets, quoi. Il y en a des paquets. Et ça se manifestait comment ? Disons que j'avais un anglais approximatif. Donc, ce qui était mignon, c'est que j'extrapolais ce que j'entendais, quoi, à l'intention, machin, et c'est un peu comme ça que j'ai appris l'anglais. C'est au bout d'un moment, en me disant, ouais, non, mais attends, là, qu'est-ce qui...
Il y a un exemple qui me revient en tête.
Je crois que mon premier exemple, c'est un album de Bob Marley que mon père écoutait. Où c'est la chanson William Samsung, voilà, où j'extrapolais le truc, et puis le jour où j'ai compris ce que ça voulait dire, enfin, où il allait, y avait deux mondes. Mais ça m'a pas empêché de continuer à le faire. Hein. De temps en temps, j'écoute des trucs, je comprends, même si j'écoute comme ça, en surface, j'ai toujours ce réflexe d'extrapoler ce que ça dit, quoi. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have
redemption songs. Mais qu'est-ce qu'il y a en haut de l'étagère de vos icônes?
Il y a Nina Simone d'abord, par exemple, entre autres. Pour tout, quoi, pour l'aura, les paroles, l'humain, enfin voilà, entre autres.
Ouais, dans les Français, Françaises.
Dans les Français.
Eddie Mitchell.
Ouais, Eddie Mitchell, c'est une période. Mais j'ai toujours aimé Eddie Mitchell parce que je suis aussi de cette génération où c'était le mercredi, je crois, il présentait les films, ouais. Les vieux films américains. Et puis, monsieur Eddie.
La dernière
quoi,
séance.
C'est, voilà, la dernière ouais. séance, merci. Cette classe. Moi, j'ai aussi, par exemple, il y a quelqu'un, ça peut être étonnant, mais j'ai aussi Philippe Manœuvre comme icône, quoi. Parce que Philippe Manœuvre, il a aussi bercé mon adolescence avec l'émission Sex Machine, entre autres. Et puis, il a toujours été là. Enfin, pour moi, les premiers vrais articles que j'ai pu lire concernant la musique, pour moi, ils étaient écrits par Philippe Manœuvre, quoi. Les trucs les plus intéressants, même les biographies. Je crois que la première biographie que j'ai dû consulter, c'était celle de James Brown, et c'était Philippe Manœuvre qui l'avait écrit, par exemple. Donc, voilà, il fait partie aussi, de manière un peu sous-jacente, mais réelle, de mes icônes.
Et au fur et à mesure que NTM a grandi, vos icônes étaient différentes?
Bah ouais, j'ai grandi avec, hein. J'ai commencé NTM, j'étais à 20 ans, donc effectivement, chez moi, quand j'étais jeune, on parlait pas trop de Mandela, je l'ai découvert en chemin, par exemple, entre autres, Coluche, ouais. Immense icône, Lynton Cozy Johnson, qui était un chanteur anglais, Rasta, qui écrivait aussi dans le Times, par exemple, à la rubrique sociale et politique, qui était un poète aussi, entre autres, voilà, mi-poète, mi-philosophe.
Comme Artaud.
Comme Artaud, ouais, ouais. Ouais, je crois que mon icône, c'est toujours quelqu'un, aussi, qui a un regard sur la société, enfin, qui rayonne encore de nos jours, quoi.
Et au cinéma?
Ah, au cinéma, pareil, hein, comme si c'est, moi je fais partie de cette France qui aimait Lino Ventura, Bourville entre autres, Gérard Depardieu, enfin voilà quoi. Voilà, au départ c'est ça quoi. Pour moi c'est le cinéma bien français, bien brut de décoffrage quoi.
Et cinéma américain?
Cinéma américain, contrairement à aussi pas mal de gens de ma génération, moi je suis pas trop Scarface, tous ces trucs là, cette espèce de sacralisation pour le gangster et ainsi de suite. Donc non, mais j'étais vraiment plus tourné vers le cinéma français en fait. Mmh. Mais vraiment quoi. C'est-à-dire que moi j'ai toujours eu ce truc de, quand on a commencé le rap, il y avait un truc qui me gênait quand même, c'était on est un peu formaté sur ce que faisaient les Américains quoi, et ça me gênait toujours en ah fait. Oui. Moi j'avais toujours envie qu'on fasse un truc à la française quoi, qu'on soit français, voilà quoi, parce que je trouve qu'il y a une super belle tradition de paroles, de paroliers dans la musique française, voilà. Tiens, j'ai oublié Lino Ferré entre autres, Claude Nougaro aussi, enfin voilà. Il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que souvent quand les gens m'interpellent dans la rue et me disent vous êtes, la première chose que je réponds c'est Henri Salvador. Bon, ça les fait rire, comme ça je peux me barrer tout de suite, voilà. Donc je pense qu'il fait partie aussi de mes icônes, voilà. Ouais. Même si pour moi il a pas tout le temps fait du bien à notre communauté, mais voilà.
Ouais. Dans votre vie personnelle, est-ce qu'il y a des icônes, votre père, votre mère?
Ma mère. Ouais. Ma mère, pour moi, est une femme, je lui dis pas assez, mais est une femme fantastique. Parce qu'elle est arrivée en France sur un mensonge et que...
C'est-à-dire?
Mon père, quoi. C'est-à-dire qu'elle est arrivée en France pensant être la légitime et elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas toute seule, entre autres. Et voilà, elle a toujours gardé la tête haute par rapport à ça. Un amour indéfectible pour ses enfants, même si par exemple, moi, on m'a arraché à elle, entre autres. Mais enfin voilà, ce qui peut paraître normal pour certains, mais en fait, il y a tout un contexte à l'époque... qui fait que c'était très compliqué et qu'elle est toujours restée très 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 ligne. Donc voilà, je la regarde avec les yeux huileux tout le temps.
Et elle a influencé votre vie?
Elle a influencé ma vie, ouais. Au niveau du caractère, ouais, on peut pas dire le contraire, ouais. Effectivement.
Et du comportement?
Du comportement, elle comprend peut-être pas toujours tout, mais mais voilà quoi. Non, je pense qu'elle reste bienveillante à mon égard, quoi. Elle comprend que je me suis fait tout seul, donc forcément... La perfection, n'étant pas de ce bas monde, j'ai quand même ma place, quoi.
Ouais. Et à part votre mère, vous...
Il y a certaines femmes de ma vie, entre autres. Je le dis souvent, Béatrice Dalle, par exemple, qui a été d'une forte influence aussi.
Et qui l'est toujours.
Oui. Et qui d'autre Mais par exemple, tout à l'heure, je parlais de Florence Artaud, quoi, qui m'a... on a fait des trucs bizarres, mais on a fait des trucs très bien, quoi. Et enfin voilà, quoi. Je me rappelle que on se mettait la tête dans le guidon, mais on faisait des lectures. Et c'est là que j'ai découvert Artaud, justement.
Ah oui, voilà. La tête dans le guidon, ça
la
veut
tête
dire.
Dans le guidon, bah, on prenait des opioïdes, des trucs comme ça, et puis voilà, quoi. Voilà, on allait embrasser le cul de Dieu, comme dirait Artaud, et on s'abreuvait de plein de choses en même temps.
Vous lisiez Artaud avec Artaud.
Voilà, exactement, ouais. Je lisais Artaud avec Artaud. Donc forcément, ça grince.
Vous avez un fils qui est gardien de but, qui joue au football, dans le monde professionnel, à Auxerre.
Ouais.
Est-ce que dans le sport, il y a des icônes?
Bah, il y a Arsène Wenger, par exemple. Il y a vous, tiens. Vous, quand même. Ouais, l'air de rien. Si, vous aussi, ouais. Ouais, vous avez quand même une bonne place là-dedans. Enfin, moi qui suis parisien, PSG, blablabla.
Au siècle précédent.
Et puis surtout, Téléfoutin. Téléfoutin, c'était le rendez-vous, par exemple, pour mon père, c'était avec Pierre Congioni, c'est ça. C'était le rendez-vous tous les dimanches où il fallait se taire dans la maison, tac-tac. Donc en fait.
Je sais que la première émission que vous avez faite, c'était à Mon Zénith à moi, je crois. Et
ouais.
Vous répondiez à votre façon à cette époque-là et votre père vous avait un peu engueulé d'avoir répondu
ouais,
comme ça.
Ouais, parce qu'en fait, vous nous avez demandé non. Donc j'avais répondu nique ta mère, identité nique ta mère, nationalité ou je sais plus quoi. Ouais, donc, enfin les trois premières réponses j'avais répondu nique ta mère et mon père m'a dit mais je comprends pas pourquoi il t'a pas giflé plutôt que de te laisser parler, dire des conneries. Enfin voilà, bref, voilà, vous avez une place en or parmi les icônes dans ma famille. Il s'y attendait pas, c'est
non. Non, ça, bon, ça me coupe le sifflet.
Voilà.
NTM ça veut dire quoi?
Nique ta mère.
Vous êtes de quelle nationalité, NTM?
Nique ta mère.
Oui.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de couleur, quoi.
Ouais. Votre profession?
Dionysien.
NTM.
Comment vous vivez la période d'aujourd'hui de Covid?
Bah, un peu comme tout le monde, quoi. On ne sait pas trop, quoi. Il y a des chiffres. C'est pas très lisible, tout ça. Et puis, comme moi, je suis en plus. Bah, je suis dans le spectacle. C'est-à-dire que cette année, en général, je fais beaucoup de live. C'est le truc qui me tient en contact avec la musique. C'est-à-dire si je fais pas d'album ou autre, je vais faire des sound systems, je vais faire un genre de showcase, machin, tac. Là, j'en ai fait que deux dans l'année, quoi. Donc voilà. Et puis de temps en temps, pour des raisons obscures, on peut pas prendre l'avion parce qu'il y a eu un tirage au sort. Je dis putain, c'est le Bangladesh, le pays, quand j'entends des trucs comme ça. Donc voilà, quoi. Et puis surtout. On nous a un peu enfantilisés, quoi, avec tout ça, quoi. C'est genre, comme je le disais, tout n'est pas lisible, donc du coup, bah, on acte sans forcément comprendre ou savoir quoi, et puis après, on va prendre l'avion parce qu'il faut. Moi, je parle pas forcément de partir en vacances. Hein, les vacances pour moi, j'ai pris une voiture, j'ai mis ma famille dedans et je me suis tapé 10 heures de route, quoi, aller-retour pour éviter. Je suis pas allé à la plage. J'ai les moyens d'eux. J'ai pris une maison, j'ai mis toute ma famille dedans et puis on est resté entre nous, ce qui était une très bonne chose en plus.
Ouais, vous avez fait la cuisine.
Technique de rapprochement. Voilà, voilà. Tac. Ouais, j'ai fait la cuisine pour 15 personnes pendant 20 jours, ce qui m'allait très bien. Ben, voilà, mais. Moi, je suis un peu un privilégié, donc je peux faire ce genre de choses. Mais quand on a cloîtré les gens pendant plus de 2 mois, enfin quasiment 2 mois, et que après arrive la période des vacances, je trouve que à un moment donné, encore une fois, le gouvernement ne prend pas ses responsabilités. Ouais, moi, c'est ce qui m'apparaît le plus évident, quoi. C'est que à un moment donné, le gouvernement est en retard sur les masques, est en retard sur tout. Quand on sait aujourd'hui qu'il y a des gens qui avaient déjà le Covid en février dernier, quoi. Donc voilà.
Vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Nicolas Bedos la semaine dernière?
Ouais, je le rejoins assez, ouais. Je le rejoins assez, ouais. Enfin, moi, je suis pour le vivons, quoi. Vivons, malgré tout, vivons, ouais. Mais oui, je suis assez d'accord avec lui, ouais. Ouais, je le rejoins.
Et malgré tout, vous êtes hyperactif. Vous faites 36 trucs.
Mais parce que faut travailler, parce que j'ai des bouches à nourrir, parce que j'ai une vie à vivre, parce que ça fait 30 ans qu'on me demande encore de faire des choses qui me font sortir de ma zone de confort et ainsi de suite. Et j'adore ça. Donc, voilà, j'y vais, quoi. Et puis, parce qu'il faut travailler. Parce que quand on est artiste, on a besoin d'exister. C'est une blague, hein. Mais vous savez, moi, quand les gens applaudissent à 20h, j'ai envie de sortir dans la rue et dire merci, merci, merci. Vous voyez, faire des conneries comme ça, quoi. Tu vois, voilà. Non, mais, moi, j'ai bien compris depuis un moment que ma raison d'être c'est ça, bah j'y vais, quoi, je fonce. Alors, il y a des choses que je refuse de faire, par exemple, hein, je dénigre pas, mais je vais éviter la Fashion Week, par exemple, hein, aller faire des défilés, tout ça, je pense qu'on peut s'en passer, par exemple.
Vous n'êtes pas allé au défilé Etam cette année?
Non, j'y suis pas allé. J'ai été invité par Isabelle Marron, je ne vais pas y aller non plus. Enfin voilà, je pense qu'il y a certaines choses qu'on peut éviter. Puis je crois qu'en plus, la mode a pris des dispositions, ils font des mini-films, des choses, ils ont un réseau de dingue, à mon avis. ils peuvent, à mon avis, exister sans forcément qu'il y ait regroupement, quoi.
Vous êtes très stylé, faites très attention à la façon dont vous habillez, vous avez un dressing multiplié par 3.
Ouais, quand tu rentres dans mon dressing, tu as envie de dire, il a beaucoup de pieds, le gars. Il a beaucoup de chaussures.
Est-ce que vous avez des icônes dans la mode?
Ouais, ça, c'est très changeant, quoi. Mais aujourd'hui, par exemple, avant, on disait Galliano, enfin, à une certaine époque ou autre, tac. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus des icônes. Il y a des marques précises, voilà, qui développent des trucs, qui font des choses un peu, ça peut être un genre, mais en fait, tout le monde peut aller s'abreuver chez eux. Donc, je pense qu'il y a, un éclatement, en fait, qui rend tout ça plus intéressant.
Vous êtes aussi prolifique qu'Antonin Artaud au niveau artistique, c'est-à-dire vous chantez, vous écrivez, vous jouez, vous allez bientôt faire un one-man show, vous m'avez dit.
Et je fais la mise en scène d'un seul en scène, en fait.
D'un seul en scène,
ouais,
ouais,
qui s'appelle cette petite musique que personne n'entend. Ouais, c'est vertigineux comme titre, mais ça promet.
Qu'est-ce que vous n'avez pas fait qui vous manque?
Qu'est-ce que j'ai pas fait qui me manque? C'est vraiment le genre de question que je me pose jamais. Plein de trucs au théâtre encore.
Ouais.
C'est le nouveau truc là depuis 2-3 ans.
C'était une belle histoire.
Ouais, mais c'est une histoire humaine et en plus c'est une belle histoire en soi. Enfin voilà, enfin tout ce que ça dit. Tac, et surtout ça fait 2-3 ans là, j'ai découvert le théâtre. Parce que j'avais vraiment, moi je suis de la génération aussi, le théâtre, Jean Le Poulain, vous voyez, au théâtre ce soir. Donc c'était pour moi le théâtre, c'était, j'exagère un peu, mais. C'était des gens qui parlaient fort et qui tapaient du pied sur des planches, enfin voilà, et réservaient une élite, tac, et j'ai rencontré 2 personnes qui m'ont expliqué, qui m'ont bien fait comprendre que le théâtre appartenait à la rue et qu'il fallait le rendre à la rue, et qu'ils œuvraient dans ce sens-là, et tout de suite l'idée m'a plu, quoi.
Est-ce que vous écrivez?
Alors, est-ce que j'écris? Très peu en ce moment, moins qu'il y a quelques années, mais j'écris toujours un peu, ouais.
Ouais.
Ouais, j'écris des choses qui me passent par la tête à propos de tout ce qui se passe autour de moi, quoi. Comme tout ce qui se passe autour de moi m'intéresse à mort, je ne dis pas que je suis une tour de contrôle et que rien ne m'échappe, mais ouais, j'écris en réaction à toujours. Ouais, j'ai toujours ce truc.
Vous êtes au courant de tout ce qui se passe de beaucoup.
Ouais, plus ou moins, quoi. Ouais, par exemple, je sais pas, les élections américaines, parce que je sais que ça va avoir des répercussions sur nos vies prochainement, entre autres. J'aimerais savoir comment ça se passe le Covid en Inde, un peu plus, ou même en Afrique, et ainsi de suite. Enfin voilà, je sais pas, au possible, quoi.
Vous n'avez pas parlé de Éloquence à l'Assemblée, qui a eu beaucoup de succès.
Ouais. Bah, Éloquence à l'Assemblée, moi, ce qui m'a plu, c'est que. Donc ça s'est fait dans le bureau de mon agent, je rencontre Pierre Grillet et Jérémy Lipman, et les mecs m'expliquent qu'en fait, ils cherchent un genre de tribun, un mec. Qui a de la gouaille. Donc je les regarde comme ça, et en fait, ils me disent, voilà, on a sélectionné des discours, ça va de Hugo, l'abbé Grégoire, tac, donc ça part de 1700 quelque chose à peu près de nos jours, parce qu'on y a aussi mis Aimé Césaire, alors qu'il n'est jamais monté à la tribune, entre autres, ou même Olympe de Gouges non plus. Donc ils m'expliquent tout le truc, hop, et bon, moi, bien sûr... première chose, quand je sais pas quoi dire, bah, je fais du mauvais humour. Et donc, je leur dis, mais pourquoi moi? Enfin, je peux avoir l'adresse de votre dealer, des trucs comme ça, ça les fait pas rire du tout. Et je crois qu'il y en a un des deux qui me dit, non, mais si ça t'intéresse pas, tu nous le dis. Je dis, non, c'est pas que ça m'intéresse pas. Enfin, je vais lire et puis je verrai, quoi. Et j'ai lu et voilà, j'ai redécouvert Hugo. Si on parlait d'icônes, entre autres. Puis j'en ai découvert plein. Je connaissais pas Lamartine. Je savais pas que Lamartine avait eu aussi des hautes fonctions. Et puis surtout, ce qui m'a choqué, c'est que on démarre avec, je crois que un des plus vieux discours, c'est Robespierre ou l'abbé Grégoire. Donc Robespierre, juste avant de se faire couper la tête, machin, la Révolution française. Et en fait, on se rend compte que c'est encore très contemporain, tout ça, quoi. C'est-à-dire que Robespierre nous parle grosso merdo, des prémices du capitalisme, quelque part, quoi. Voilà. L'abbé Grégoire nous parle du langage. Et on pourrait, quand on prend notre téléphone, quand on voit les textos que certains envoient, enfin, tu vois, du fait que on parle le français sur les rives du Mississippi, mais qu'on le parle très mal entre nous sur le territoire, quoi. Voilà, quoi. Donc ça m'a plu tout de suite. Et je me rappelle, j'étais avec mon petit frère, et j'appelle Lipman, je dis, écoute, j'en suis, ça m'intéresse, machin, je raccroche, et lui, il me regarde, et il me dit, mon frère en face, on me regarde, et il me dit, mais t'as réfléchi quand même que tu vas monter sur scène tout seul pour aller livrer tout ça. C'est-à-dire, c'est bien comme ça. Et en fait, je suis un peu comme ça, quoi. C'est-à-dire que quand ça me plaît, ça me plaît, donc j'y vais. Et du coup, il faut savoir que quand on a commencé, c'était une lecture. Et quand on a commencé à lire, je l'avais en vis-à-vis, comme on pourrait avoir quelqu'un, une terrasse de café, vous savez, les petites tables rondes, tac. Et je me suis rendu compte, en fait, en commençant à lire, je me suis dit, mais je lis comme une merde. J'avais honte, carrément. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je porte des lunettes, c'était ça. Dès que j'ai eu des lunettes, tout est parti, tout s'est emballé, et voilà quoi. Et ce que j'ai adoré dans cette expérience, c'est qu'on est même allé le jouer à l'Assemblée nationale, voilà, et on est allé le jouer là où ça doit exister, c'est-à-dire dans la rue, on l'a joué en pleine heure de pointe à la gare Saint-Lazare, devant le Starbucks, avec les annonces, les gens, puis 19h par là, 19h30, c'est une heure où les gens ont pas forcément envie de traîner dans une gare, et on avait 300-400 personnes qui sont ameutées. Je me dis que ils sont peut-être dit au départ, quelle lessive il vient nous vendre, lui, tac, et ainsi de suite, je sais pas, voilà, comment ça s'est fait, mais en tout cas, on avait des gens de tous bords, et c'était magnifique, quoi. Voilà. Et puis, pour une fois, il y avait ce truc un peu moins formel qu'il y a au théâtre, c'est-à-dire que tu joues, et puis les gens sont là, et les gens te font part de leurs impressions, et ce que j'ai adoré aussi, c'est que c'est pas du tout la même chose, ils ont pas du tout la même chose dans les yeux que des gens qui sortent d'une salle de concert. Et le théâtre, c'est encore autre chose, quoi. Et puis, t'as tout le protocole avec les rombières devant, les abonnés, les machins, les tac-tac. Donc je suis parti en tournée avec ça et j'ai découvert encore un autre monde. J'adore l'idée. Enfin moi j'aime le live, j'aime le contact, j'aime ce truc palpable. Donc voilà, du coup j'ai trouvé autre chose là.
Merci.
C'est moi.
Icône est un podcast Europe 1 présenté par Michel Denisot. Réalisation, Corinne Reich. Programmation, Claire Dutronc. Retrouvez Icône chaque semaine sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1 et vos plateformes habituelles.